Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Christian Poyot. Bonjour Christian.
Bonjour Raphaël Legendre.
Co-fondateur et CEO de Micropole, le groupe Talent. Hervé Novelli, bonjour Hervé. Bonjour. Initiateur du Cercle des entrepreneurs engagés et ancien ministre. Et puis Thomas Grébin. Bonjour Thomas.
Bonjour Raphaël.
Responsable du programme Macroéconomie et Finances Internationales au CEPI. Alors je vous le disais, je voulais qu'on commence tout de suite par ces questions d'attractivité. Choose France, le dernier Choose France d'Emmanuel Macron pour sa 9e édition. Eh bien, le président de la République a quand même pu annoncer 93 milliards d'euros d'investissements étrangers, de promesses d'investissement pour l'instant. D'abord, ce chiffre, est-ce qu'il vous paraît crédible? Allez, Christian, je commence avec vous.
Oui. Enfin, qu'est-ce qui
Parce qu'on a eu tendance à les gonfler à l'hélium un peu à un certain moment.
Je pense que le mieux, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières années et voir quel était le pourcentage d'atteinte des chiffres annoncés. Alors, il n'est jamais de 100%, mais ce n'est pas du fait de la France ou d'Emmanuel Macron. Les sociétés peuvent dire à un moment, OK, finalement, j'investis autrement ou de manière plus décalée, etc. Mais il me semble que le chiffre d'atteinte des années précédentes est de 70%, grosso modo. Une moyenne qui a été faite. Voilà. Bon. Moi, je trouve ça pas mal.
Je crois même qu'on est à 95% des projets qui sont mis en place.
Oui, mais moi, je parle en montant. Bon, alors après, si c'est 95 milliards, super, extraordinaire, il y a là, comme disait l'autre. Voilà. Donc, c'est une réussite. Je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Ouais. On va lister certainement des sujets qui restent complexes, etc. Mais je veux dire, ne sont pas dans le catastrophisme. La France a plein d'atouts pour réussir, comme le dit une très belle chaîne de radio. Voilà. Donc oui, Choose France, c'est une réussite d'Emmanuel Macron et saluons-la tel qu'il faut le faire.
Ah oui, en dépit des normes, en dépit de la fiscalité qu'on critique toujours, Thomas Grébin, on a quand même ce chiffre-là, c'est une excellente nouvelle.
Oui, c'est une excellente nouvelle. Alors sur les chiffres, l'usine nouvelle a fait un décompte intéressant la semaine dernière, qui disait que s'il y avait eu 178 projets qui avaient été annoncés jusqu'à cette année.
Oui.
Et sur ces 178 projets, il y avait 39 créations de sites qui avaient été annoncées. Si c'est 39 créations de sites, il y en aurait 15 qui seraient opérationnels. Donc,
40,
on serait plutôt autour de 40%.
Voilà qui relativise.
On serait plutôt autour de 40% des créations de sites annoncés.
Opérationnels ou en cours d'être opérationnels.
On est dans une
frontière. Site industriel, ça prend toujours du temps.
Évidemment, ça prend du temps. Et il y en aurait 7 sur ces 40 qui auraient été abandonnés. Donc, c'est un bilan qui est positif.
Plus largement positif.
Moi, je crois qu'il faut saluer ce type d'initiative. C'est quand même toujours important de montrer que nous sommes attractifs. Je mettrai trois remarques. La première remarque, je le disais en aparté, c'est que un seul investissement fait la moitié, c'est celui de SoftBank,
fait la moitié
du total. Voilà, c'est la première, mais on ne va pas bouder notre plaisir.
C'est quand même le contrat du siècle, pardon.
Le deuxième point sur lequel il faut prêter attention, c'est que d'après les déclarations même d'Emmanuel Macron, les 8 précédents Choose France avaient amené à la création de 50 000 emplois. Là, on parle de 15 000 emplois pour un chiffre supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu en emploi décroît, et c'est bien naturel, puisque on est là sur des data centers.
Oui, ça, on va y venir, effectivement.
Et donc, la création d'emplois...
C'est une des critiques.
Mais
qu'il y a des investissements, mais pas assez d'emplois.
Une troisième critique, peut-être plus forte, que je ferai, c'est qu'on ne fera en fin d'année que le deuxième sommet Choose France en France.
France, oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la préoccupation de privilégier nos entreprises françaises, elle n'est apparue que très récemment par rapport au lancement de Choose France. Et c'est un sujet, j'ai été très frappé par ce qu'on appelle les stratégies d'évitement.
C'est-à-dire?
Un concept qui consiste à ne pas investir en France quand on est une entreprise française et à préférer s'implanter à l'étranger.
Ah oui, mais on va chercher la croissance là où elle est, Hervé Novelli.
Oui, on pourrait la chercher en exportant.
Et la rentabilité des capitaux aussi.
Le vrai sujet, c'est qu'il y a des contraintes aujourd'hui qui pèsent sur les entreprises françaises qui sont un peu plus lourdes. Quand je dis un peu, c'est parce que on est tôt le matin.
C'est une méthode.
Plus lourdes qu'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce cercle des entrepreneurs engagés, c'est-à-dire de tous les entrepreneurs qui se disent Prenons la parole, montrons que l'entreprise est le vecteur de croissance unique et obligatoire, signons la charte des entrepreneurs engagés. C'est cela à quoi je m'emploie. Ça ne fait pas disparaître les contraintes, mais ça amène à la mobilisation.
Christian.
Oui, c'est sûr que les projets qui sont annoncés bénéficient aussi d'un certain nombre d'avantages sur des taxes ou des choses comme ça, ce qui facilite la vie. Et je ne peux qu'aller dans le sens de ce que vient de dire Hervé, évidemment, sur le fait que les entreprises françaises, elles, quand elles font finalement le même projet, bah, elles ont droit à toutes les taxes.
Elles sont peut-être moins subventionnées.
Elles sont moins subventionnées, mais...
Et la bureaucratie en occupe plus.
Voilà. On sait combien... Est-ce qu'on a le chiffre des subventions pour tous ces projets? Parce qu'en général, ça se chiffre en milliards quand même derrière aussi.
Honnêtement, je pense que ça doit être difficile à déterminer.
Hein. On est plus discret.
Dit à voix basse, Hervé Novelli, d'ailleurs, en le disant.
Oui, mais ça chuchote. Non, mais pardon, mais la guerre des subventions, on va y venir en deuxième partie, en seconde partie d'émission. La Chine subventionne absolument massivement son industrie. La guerre commerciale se joue là-dessus aussi.
Qu'est-ce que ça met en exergue? Ça met en exergue que les entreprises françaises, elles sont toujours fortement pénalisées. On ne va pas reparler à nouveau des impôts de production, mais enfin bon, je le fais quand même.
Oui.
Et pourraient faire certainement beaucoup plus si on pouvait bénéficier des mêmes avantages que ces entreprises-là. Mais encore une fois, je ne critique pas du tout le sujet. C'est très bien, on fait venir des entreprises. Oui, les data centers, on en reparlera certainement, créent moins d'emplois, mais enfin, en emploi indirect, en dynamique, des régions, surtout que ça s'implante là pour le coup, pas dans les villes, etc. Donc c'est quand même des choses qui sont très positives. Donc encore une fois, voyons le verre à moitié.
Je voudrais dire un point très important
par
un des plus hauts responsables français, pour ne pas le dire, autour de plus hauts responsables sur l'attractivité, c'est que ce qui est prévu, les task force qui s'organisent pour attirer les investissements étrangers, il n'existe pas de task force pour les investissements français en France. On s'est aperçu de cette grande lacune.
Oui, mais autrement, on peut dire, Hervé Novelli, que c'est le job des chefs d'entreprise français d'investir pour développer leur entreprise. On n'a peut-être pas besoin de l'État.
Que l'État s'en préoccupe aujourd'hui, alors qu'il déroule le tapis rouge, et c'est très bien pour les investissements étrangers, que l'État s'en préoccupe, pourquoi pas? En tout cas, ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui, et c'est important.
Et c'était plutôt un beau succès, mais c'est un exercice de communication politique aussi, Choose France en France. Est-ce que l'IA, Thomas Grébin, est la nouvelle industrie du 21e siècle? Est-ce que les data centers deviennent les hauts fourneaux du 21e siècle? Est-ce que c'est ça qui va permettre de relancer le tissu industriel français?
En tout cas, c'est fondamental d'un point de vue de souveraineté, et ça va devenir fondamental de maîtriser la chaîne de valeur de l'IA d'un point de vue économique. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de discours. Est-ce qu'il faut attirer les data centers? Est-ce qu'il faut attirer les centres de données, de calcul? Est-ce qu'on possède, comment on fait pour avoir du cloud? Tout ça, en fait, on voit bien qu'on est encore, c'est difficile. Quand on regarde sur l'IA, alors il y a des annonces qui sont spectaculaires et c'est en effet une excellente nouvelle. Donc si on prend depuis un an,
les annonces... l'accélération est quand même absolument dingue.
Elle est dingue.
Ça chiffre en dizaines de milliards à chaque fois.
On est même entre 150 et 190 milliards d'euros qui sont annoncés. Si on compare avec les Allemands, on est plutôt autour de 10 ou 20 milliards qui ont été annoncés. Alors après, il y a les annonces et il y a
Il y a les effets d'annonce et puis il y a le réel aussi.
Il y a les capacités qui sont déjà annoncées, c'est-à-dire que quand on regarde ce qui est déjà annoncé qui est déjà effectif en data center, la France est plutôt en troisième position au niveau européen, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Mais en tout cas, en termes de dynamique, c'est une excellente nouvelle. Donc ça...
Ça veut dire qu'on va quand même... Alors, si je compare la France et l'Allemagne, là, pardon, Thomas Grébin, de vous interrompre, mais ça veut dire qu'on va les dépasser très rapidement, quand même.
C'est des investissements,
peut-être même le UK.
Par exemple, ce qui a été annoncé, c'est jusqu'en 2031. Donc, il y a une montée en puissance progressive.
C'est demain, 2031.
C'est demain. Et l'autre point qui me semble important, c'est que... c'est un bond en avant de l'Europe, mais il y a quand même un retard assez significatif par rapport aux États-Unis.
Aux
États-Unis,
Raphaël,
c'est 500 milliards qui ont été annoncés.
Mais donc on n'y est pas encore, on accélère.
Raphaël,
mais
Novelli, puis Christian Poyon. Il y avait une grande différence, c'est qu'il y avait des ouvriers.
Oui.
Là, dans ce qu'on appelle les hauts fourneaux du 21e siècle, ça crée peu d'emplois intrinsèquement. Alors bien sûr, il y a toute la diffusion,
le ruissellement, comme on dit aujourd'hui,
qui peuvent en résulter. Mais quand on regarde les créations d'emplois dans les data centers ou autres, ça se chiffre à quelques centaines d'emplois.
Après, il y a des services.
Donc parler de hauts fourneaux, c'est aussi.
Oui. Est-ce qu'on sait où va aller cet argent d'ailleurs? Parce que bon, on annonce 45 milliards, mais Le matériel informatique, non, oui, mais... les murs, le béton qu'on va construire autour, ok.
Bah, vous avez vu Schneider,
c'est français,
hein,
mais Schneider, alors, c'est 5 milliards.
Fait, hein. Fait un bond, plus que. Oui. Alors, sur cette notion d'IA, qui est une notion complexe, donc impossible à résumer en quelques mots, et personne, je pense, peut avoir une vision exhaustive du sujet. Bon, la chaîne de valeur est très large. Là, on parle d'un, je sais pas, c'est un petit bout, en tout cas une portion de la chaîne de valeur. Hein, les data centers, ok, c'est l'endroit où on va stocker les data. Mais ça ne prend pas du tout en compte bah, la partie traitement, la partie analyse, la partie data. Enfin, et vu de ma fenêtre, étant quand même dans ce secteur-là, la plus forte valeur ajoutée, elle est quand même sur ce qui est en aval, si je veux dire, sur les jeux du ciel d'IA, et surtout la data. Hein, c'est à chaque fois ce que je dis. Bon, maintenant qu'il y ait des data centers en Europe et spécifiquement en France, très bien, c'est une bonne nouvelle. J'ai les mêmes informations sur le fait que la France est quand même en retard, enfin en tout cas n'est pas numéro un en Europe, elle est derrière l'Angleterre et derrière l'Allemagne. Bon, ok, bon, on avance bien d'une manière générale. Donc ça ruisselle sur ces sociétés électriques, et après, bah, il faut... C'est un point fort aussi par le... Pourquoi ? Parce qu'on a cette énergie décarbonée avec l'industrie nucléaire.
Il faut expliquer ça. Le patron de SoftBank l'a dit. Hein, l'avantage compétitif de la France, c'est très clairement...
Donc, profitons-en.
Voilà. L'énergie disponible.
Mais donc, c'est une bonne nouvelle, oui. Est-ce que c'est parce qu'on aura ces data centers en France qui vont monter en puissance qu'on règle le problème du pilotage de la chaîne de valeur de l'IA? Non, on en est relativement loin, bien évidemment. Donc, il y a plein d'endroits où il faut chercher à avancer. On ne maîtrisera jamais l'intégralité de la chaîne de valeur. Personne ne la maîtrise, d'ailleurs, ni les États-Unis, ni les Chinois, ni qui que ce soit. Détectons les points clés sur lesquels il faut effectivement, il est significatif d'avoir un footprint important et un moyen de pression pour que les choses, ça fait clair, assez significatif. Les data centers en sont un. C'est pas non plus le sujet, vu de ma fenêtre, primordiale par rapport à cette fameuse chaîne de valeur.
Bon, il n'y a pas que les data centers. Hein. Alors, c'est vrai que l'annonce spectaculaire de SoftBank fait que ça éclipse un petit peu tout le reste, mais vous avez par exemple la Syrie, Marseille Gaglia, première ouverture d'Assyrie depuis 50 ans en France.
Est-ce qu'on a un haut fourneau.
On a aussi les hauts fourneaux, voilà, exactement. Donc, pardon, mais est-ce que c'est un changement, Thomas Grébin, de cycle industriel? Est-ce que plus globalement, on est en train de changer de regard sur la France.
Je pense que sur l'IA, c'est clair que les nouvelles sont excellentes. Sur le reste, c'est beaucoup plus mitigé. C'est-à-dire que depuis deux ans, on est rentré dans une phase où il y a plus de destruction de sites industriels que de création. On a fermé un peu la parenthèse très très positive qui a existé entre 2018 et 2024, où il y avait eu près de 180 000 emplois industriels qui avaient été créés. C'était un peu la plus longue phase depuis une quarantaine d'années de création d'emplois industriels. Donc malheureusement...
Qu'est-ce qui a cassé cette dynamique ?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part eu plusieurs chocs très important sur l'économie mondiale, que ce soit la crise Covid, où il y a eu beaucoup de sites de production qui ont été arrêtés et ensuite qui ont peu réouvert. Ensuite, il y a eu un choc de demande négatif. La croissance européenne est relativement atone. Vous avez eu le choc énergétique aussi qui pénalise fortement l'industrie européenne. Et puis finalement, et de plus en plus, vous avez ce rouleau compresseur chinois qui menace des pans entiers de l'industrie européenne et qui, je pense, va rendre très difficile des investissements dans la sidérurgie dans les années qui viennent.
Oui, ça, on va en parler. Vous croyez à un renouveau industriel en France, Hervé Nobile?
Oui, j'y crois. À condition que là aussi, on utilise ce qui va révolutionner dans les mois et les années qui viennent, c'est ce qu'on appelle les agents IA. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui peuvent multiplier par 10 la productivité dans l'industrie. Pensez à l'industrie automobile.
Par 10 ?
Oui, et ça leur redonne un espoir. Ça redonne un espoir à un certain nombre d'industries qui sont très inquiètes, l'industrie automobile française par exemple. Mais là, c'est très intéressant qu'une Assyrie annonce une ouverture. Pourquoi ? Oui. Ça veut dire qu'on peut réintroduire de la compétitivité dans des métiers industriels qui semblaient voué à disparaître parce que concurrencé.
Quand le marché est protégé
Ce qui est très important, c'est l'innovation plus que la protection, cher Raphaël.
Oui.
Et l'innovation, elle est là, elle est à l'œuvre. J'ai vu de manière très concrète des IA, des agents IA dans l'ingénierie donc dans tout le monde industriel, qui sont aujourd'hui en voie d'être finalisés du côté de la Silicon Valley et qui arrivent en France.
Bon. Et encore faudra-t-il que, oui, Christian, qu'on arrive à sauvegarder toutes ces entreprises après.
On a cité avec raison, bien sûr, un nombre de chocs. Sur tous ces chocs, tous sauf un, en fait, tous les pays les ont subis. Voilà, le Covid, la crise énergétique, etc.
Donc bon, ce sont des chocs exogènes, comme on dit, voilà, qui frappent tout le monde, effectivement.
Et puis il y en a un, le dernier, où là, pour le coup, on est les neuneux de la classe, quoi. Je veux dire, donc c'est le rouleau compresseur chinois, je reprends l'expression qui a été dit. Donc le fait que l'Europe et la France, enfin l'Europe, disons, ne sait pas se défendre par rapport à ça. Donc je pense que c'est quand même un sujet majeur, moi, pour avoir aussi, à travers le MEDEF, beaucoup de contacts vis-à-vis des entreprises. C'est quand même quelque chose qui ressort très souvent, de voir arriver des produits, somme toute, de bonne qualité, oui, à des prix totalement... enfin, déconnecté des coûts français, etc.
Mais très subventionné, oui. Donc, on en parlera dans la seconde partie de l'émission.
Et ce sujet-là, on va en parler, mais c'est quelque chose où on peut faire des choses. Voilà, hein, la crise énergétique, bon, la contrôler, c'est beaucoup plus difficile. Mais lutter contre cette concurrence totalement déloyale des Chinois, on peut faire des choses.
On est, Thomas Grébine, en deçà de ce qui se pratique au niveau international en termes de subventions. Je me souviens d'une note passionnante de Rex Ecotte qui disait que la guerre maintenant commerciale se jouait autour des subventions en réalité et que les États, c'est aussi un sujet de souveraineté économique, hein, de défendre ces entreprises, subventionner massivement, de plus en plus, leur boîte nationale, ce que ne faisait pas assez l'Europe. Partagez cet avis.
Oui, mais c'est plus difficile, d'une part, quand vous avez des réglementations qui limitent ces subventions pour ne pas distordre...
La Commission surveille les aides d'État.
Interdit les aides.
Ouais.
Il y a une interdiction des aides d'État dans les traités européens.
Ah bah assoupi, alors on a monté les pieds,
quand vous avez des marges de manœuvre budgétaires aussi faibles dans un pays comme la France, par exemple.
C'est peut-être ça le véritable problème, finalement.
Dans les annonces de restrictions budgétaires qui ont été annoncées, il y a des coupes dans France 2030. Donc France 2030, c'est pas forcément que des subventions, mais on voit bien que c'est censé être des projets pour favoriser
c'est un peu de l'amorçage,
l'industrie européenne. Et on voit bien que dans une période de disette budgétaire, on coupe plus facilement ça que les pensions des retraités.
Eh oui, évidemment. On vous le demande, ça, dans votre mouvement, Hervé Novelli, de subventions, plus... Parce que, bon, les entreprises qui critiquent le trop d'impôts, mais qui viennent chercher des subventions derrière
c'est
une forme de dissonance parfois coupable.
Oui, c'est même la raison de mon engagement avec les entrepreneurs. C'est qu'on ne demande pas d'aide. Ce qu'on demande, c'est que la fiscalité soit favorable et accompagne le développement des entreprises. Ces aides, elles viennent souvent, le plus souvent, compenser des handicaps créés par l'État lui-même.
Oui.
Rappelons-nous des allègements de charges.
Pour faire les allègements de charges, bien sûr.
Les allègements de charges, il y a une mobilisation très forte du patronat pour protester. Moi, je préférerais qu'aujourd'hui, on fasse un véritable bilan de ces allègements de charges, 80 milliards.
Oui.
C'est pas l'épaisseur du trait.
Oui.
Et qu'on fasse ce bilan parce que c'est un empilement successif d'allègements qui étaient venus compenser les 35 heures, le coût du travail au niveau du SMIC. Est-ce qu'on a créé des emplois peu qualifiés dans ce pays ?
Oui. Après, ça a très bien marché dans les années 90-2000, quand même.
Oui, regardez le taux de chômage.
Le problème, c'est la smicardisation de la société qui en découle.
Des travailleurs peu qualifiés, il est supérieur au taux de chômage des travailleurs qualifiés. Vous n'avez pas une efficacité telle qu'on puisse dire cette politique a empêché.
Non.
Aujourd'hui, oui.
Mais elle a amoindri.
Elle a amoindri.
C'est mieux que si c'était pire.
Mais aujourd'hui, ce qu'il s'agit de faire, c'est de créer un avantage compétitif. C'est pas comme nous bénéficions dans l'industrie nucléaire, c'est pas de gommer un handicap ou de tenter de le gommer.
Un environnement favorable. Christian Poyot, puis Thomas Grébine.
Alors moi, je ne peux aller que dans ce que vient de dire Hervé Novelli. Et c'est pas seulement une réaction de l'entrepreneur que je suis, mais dans tous les cercles dans lesquels je suis, MEDEF, Croissance Plus, etc. Le truc, c'est fichez-nous la paix. On ne veut pas de subventions. On demande simplement à être aligné sur la fiscalité de nos concurrents européens. Européens, hein, on ne parle pas de s'aligner sur je ne sais pas trop qui. Aligner-nous sur les concurrents européens. On pourrait parler du temps de travail. Je suis toujours heureux d'entendre que les 35 heures nous coûtent toujours aujourd'hui 15 à 20 milliards d'allègements de charges, parce que sinon, de toute façon, on serait planté. Voilà. Donc, non, pas de subvention. Les chefs d'entreprise n'ont jamais demandé des subventions. Ils n'en veulent pas par principe.
Ça peut leur arriver de temps à autre, Christian Pouillot,
si on est tout à fait honnête. Non, Raphaël Lejean, non, je suis fermé là-dessus.
Quelques
simplement.
Filières spécialistes de demande d'aide publique.
Mais parce qu'on
n'a
pas du tout la même fiscalité qu'on nos petits copains. Simplement, qu'on soit aligné sur eux, ni plus, ni moins. Voilà. Fichez-nous la paix pour pas être plus vulgaire dans mon propos.
Thomas Grabine.
Ce qui me semble aussi intéressant quand on parle de ces annonces sur l'IA, c'est le fait qu'il y a eu une forme, d'une part, de déréglementation avec les espèces de fast-track qui ont été faits sur l'IA, qui permettent à ces investisseurs d'avoir un accès beaucoup plus rapide au réseau électrique.
Oui.
Et que d'autre part, il y a eu une forme de planification sur le réseau électrique. Ce qui fait en partie le succès aujourd'hui de Dunkerque, c'est qu'on a planifié le fait qu'il y aurait des besoins électriques plus importants dans cette région. Et donc, on a essayé de densifier ce réseau électrique. Et donc ça, je pense que c'est aussi, il faut le souligner, au-delà de la question purement financière.
Oui, non,
il y a eu une partie d'anticipation. Et c'est ce dont profite.
C'est assez rare pour qu'on le souligne, effectivement. Exactement. Et on voit que ça fonctionne surtout. Oui. C'est quand même l'argument principal aujourd'hui. C'est notre électricité qu'on va pouvoir dégager de manière massive, décarbonée et compétitive.
Je rappelle qu'une partie, enfin certains partis politiques,
Merci,
que je ne citerai pas évidemment, oui, sont toujours contre l'énergie nucléaire. Enfin bon, on ne va peut-être pas rentrer dans ce débat.
Oui, mais de moins en moins. Hein. Enfin quand même, on le voit, y compris chez les partis écologistes européens.
Il était temps de virer sur l'aile.
Ouais. Je voulais juste.
Après, un avantage aussi qu'ont nos amis américains par rapport à ça, c'est le fait que l'État sait se désengager et laisser des entreprises privées développer leur activité. Bon, on en parle tous les jours quasiment, regardez SpaceX, Blue Origin, etc.
Oui.
La NASA a dit, ok, moi je ne vais pas finalement avoir la capacité ou la fluidité d'être très performant là-dessus. Donc, je subventionne pour le coup. Enfin, je subventionne. Je sais pas si c'est subvention ou si c'est acheter des services. Enfin, les deux se rejoignent peut-être. Mais en disant, OK, on laisse des entreprises privées développer le secteur du spatial. Ce qui, encore, il y a peu de temps, semblait complètement aberrant. Le spatial, c'était l'État, ça devait être contrôlé, etc. Et on voit la réussite quand même de tout ça. Et pareil, derrière ce que ça génère comme retombée sur toutes les technologies qui sont adjacentes par rapport à ça. Donc, ce qui manque aussi en France, en Europe, mais spécialement en France, c'est que l'État dise, OK, sur tel ou tel sujet, non pas je me désengage dans le sens, je m'en occupe plus, mais en tout cas, je laisse les entreprises prendre le point et les développer. Et on a, pour le coup, des tas d'entrepreneurs en France qui ne demandent que ça. Donc, on a les capacités d'avancer. Donc, ayons aussi cette logique-là dans le développement de notre pays.
Je voulais un dernier mot avec vous, Christian Pouillot, sur l'actualité de l'IA. C'est aussi les levées de fonds gigantesques qui arrivent. Anthropic a déposé sa demande d'IPO à la SEC cette nuit. On parle de, enfin, à chaque fois, tout comme SpaceX, etc. C'est 1000 milliards, hein, je veux dire, à chaque fois, les valorisations avancées. Google, qui là va lever sur le marché actions 80 milliards de dollars il y a quelques jours. C'est OpenAI qui levait 65 milliards aussi.
En dette privée, oui.
En dette privée, bon, ouais. Est-ce qu'on est encore dans la course, nous, Européens ? On attire les capitaux étrangers, super. Est-ce qu'on est encore dans la course face à ces mastodontes de l'IA ?
Encore une fois, sur cette chaîne de la valeur de l'IA que j'évoquais tout à l'heure, il y a des sujets où, je ne dis pas que le jeu est fait, parce que vous savez, les technologies, ça évolue, qu'est-ce que ça sera dans 10 ans, etc. Mais bon, il y a des points, on ne va pas recréer un Google, vous voulez, enfin, des choses comme ça, bon. Par contre, d'autres, on a la capacité on ne va pas citer tout le temps Mistral, mais enfin, c'est vrai que c'est une réalité.
Oui.
Et puis encore une fois, la data qui est le moteur de tout ça, enfin l'essence de tout ça. On peut avoir le moteur, si on n'a pas l'essence, ça sert strictement à rien.
Le marché des capitaux européens est une ardente obligation.
Voilà,
oui, qui traîne. Hein.
On parle de levée d'argent,
on toujours,
encore faudrait-il pouvoir le faire en Europe. Oui. La profondeur, comme on dit,
la profondeur du marché.
Du marché des capitaux est faible en Europe par rapport aux États-Unis.
Par rapport à ce que font les très grands, les big tech, c'est sûr qu'eux-mêmes, qui ont des capacités financières énorme, se retrouvent par ça des besoins d'investissement absolument monstrueux. Donc, ça y est, ils font appel à la dette privée ou la dette publique avec les IPO qui arrivent. Bon, certains s'en inquiètent. Maintenant, encore une fois, faire le comparatif par rapport à l'an 2000, ce qui est fait souvent à ce qui se passe à l'heure actuelle, pour moi, n'est pas le bon. On a quand même des industries qui ont quand même un chiffre d'affaires. Enfin, j'ai plus en tête le chiffre d'affaires Anthropic, mais enfin, c'est des dizaines de milliards.
Oui.
Voilà. Bon.
Oui.
Donc, on est à un moment de bascule très fort sur toutes ces nouvelles technologies. Et c'est sûr que ceux qui n'investissent pas, à un moment donné, vont se retrouver le bec dans l'eau. Voilà. Donc, choisissons nos combats. On a des choses à faire, on peut pas se battre partout, mais on a des points forts sur lesquels il faut appuyer.
On a des choses à faire, on a des atouts, on a fait un formidable Choose France, et en plus, la croissance française a été bien meilleure que prévu ces dernières années, figurez-vous. Eh ben oui, et personne n'en parle pourtant. C'est bien dommage. Mais on va le faire dans la seconde partie de l'émission. On se retrouve dans une minute, et puis on va parler aussi des voies et moyens pour contrer les surcapacités chinoises. Il se passe des choses à Bruxelles, mais aura-t-on le courage d'affronter les empires ? Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.